Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez! Alors aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Eric.
Tout à fait.
Quel nom, Eric ?
Alors, Galopa.
Quelle année de naissance ?
1971.
Un jeune. Quel signe ?
Cancer.
Et que fais-tu dans la vie ?
Alors, je suis commerçant. Après des études d'ethnologie, je suis parti en Chine. J'étais professeur de français. Et puis, j'ai ouvert, bien malgré moi, une petite échoppe sur les marchés. Ensuite, encore plus malgré moi, un premier magasin, et où je suis toujours depuis 17 ans.
Alors, grande rue, alors écoute cette chanson, c'est une belle chanson pour entrer la chanson des pirates.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh, is, oh, is, oh, eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte. La vie de pirate, quand on est pirate, pas besoin de cravate.
Alors Eric, tu étais en Chine comme professeur, mais tu as fait des études d'ethnologie,
Oui, exactement, oui, j'étais très content avec Monsieur Navet, Monsieur Eric Navet, qui est qui est toujours un grand homme et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup apporté. Partir dans un monde complètement différent, dans une Chine qui était très, très étrange, très bruyante, c'était la Mandchourie, la Chine du Nord, dans une Chine où il y avait encore beaucoup de choses à faire, était un voyage, une aventure extraordinaire. Je suis aussi allé dans des petits villages chinois, et des petits villages qui étaient habités par des gens qui n'étaient pas vraiment des Chinois, mais des groupes de minorités ethniques, des groupes ethniques de Chine.
Alors, quelle ville, la ville principale de Mandchourie ? Parce qu'on imagine mal, c'est près de la frontière russe.
Oui, tout à fait. C'est près de la frontière russe, mais c'est quand même assez proche aussi de la frontière de la Corée du Nord. Si bien que j'ai pu croiser un très grand nombre de Coréens du Nord, réfugiés. J'ai pu des fois entamer un peu la conversation avec eux, c'était assez intéressant. Au moins de pouvoir les approcher. Par contre, j'ai été invité à manger dans pas mal de restaurants coréens. Et là, effectivement, c'était très très bon. C'est une Chine maintenant qui a disparu. Une Chine plus rurale, plus bruyante, plus archaïque, où tout était pas cher.
Alors, tu parlais le mandarin ?
Alors, un petit peu, mais j'avoue que ma femme, qui est chinoise, se débrouillait beaucoup mieux que moi.
Et toi, tu t'exprimais comment ?
Avec beaucoup les mains. Avec beaucoup les mains, c'était merveilleux. Et puis, quelques phrases que j'avais apprises par cœur. L'anglais, bien sûr.
Alors, y a-t-il un fleuve dans ce Mandchourie ?
Oui. Tout à fait. Il borde la frontière avec la Russie, et c'est le fleuve Amour. Mais les Chinois l'appellent le Heilongjiang.
Et alors, ce fleuve t'a attiré quoi ? Parce que comme l'émission est au fil de l'eau, qu'est-ce que tu veux parler de ce fleuve ?
Alors, c'est étrange, parce que ce fleuve était peuplé, enfin, il y avait beaucoup de Russes. Il y avait beaucoup de Russes, beaucoup de Chinois, mais ci et là, on voyait des gens qui étaient ni Chinois ni Russes, qui étaient des évêques et qui étaient des pêcheurs. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on voyait que toute leur vie était liée à la pêche. Certains, j'ai appris plus tard, bon, la pratique a disparu, certains même étaient vêtus de peau de poisson qui tannaient eux-mêmes.
Mais ils pêchent avec les cormorans ou ils pêchent...
Ah non, les cormorans, c'est spécifique à la Chine du sud, aux cormorans de la rivière Li, dans le Guangxi. Mais là, non, ils pêchaient vraiment avec des filets. C'est un fleuve immense. Le pauvre cormoran, là, on n'était pas de taille.
Alors, le fleuve amour, l'ensemble des choses, pour toi, qu'est-ce que tu allais enseigner le français à des Chinois ou à des Européens ou...
Alors, véritablement à des Chinois. Vous avez remarqué, quand on arrive près des facultés de Strasbourg, qu'il y a un très grand nombre d'étudiants chinois. Pour venir en France, ils sont obligés d'avoir un certain nombre d'heures de français, une pratique minimale de français. Et pour cela, il faut des lecteurs de français, ce que j'étais. Hein. J'aidais les professeurs chinois. J'étais un lecteur de français, j'étais un professeur de français qui leur permettait d'améliorer leur niveau de langue.
Alors c'est quoi un lecteur de français? Tu lisais des textes en français, de la prononciation
ou... Exactement. Et en plus, comme j'aimais faire des heures supplémentaires, je leur parlais de la France, je leur parlais de mes lectures, de leurs difficultés en français, de leurs difficultés d'apprentissage. Et puis, on parlait un petit peu d'eux.
Alors, quelle est la différence entre la langue du mandarin, qui est une langue très difficile, de bâton, d'écriture, je dis du bâton, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et dans la prononciation? C'est très difficile dans la prononciation.
Oui, c'est absolument difficile. Il y a des gens très doués, moi je ne le suis pas, je suis dyslexique, j'ai eu des problèmes incommensurables, mais c'est abominable. Quand on n'est pas doué, c'est vraiment très difficile.
À retenir aussi?
Aussi, parce qu'il faut retenir, c'est des idiopictogrammes. Il faut retenir les chiffres, la manière d'écrire, et il faut retenir la manière de prononcer. En plus, il y a les fameux tons.
Alors, est-ce qu'un Français en Mandchourie est bien accueilli?
Ah oui. Ah là, oui, tout à fait. Alors, c'était en 2002. Nous étions très bien accueillis. J'étais un professeur de français qui n'allait que les aider à partir dans un pays qui rêvait. J'étais avec Zidane, le seul français qu'il connaissait. Et quelque part, je représentais un peu l'exotisme. Je représentais un blanc. Il y avait beaucoup de Russes, mais de voir un Français, c'était une nouveauté. Et effectivement, on était très bien accueillis. On l'a encore maintenant.
Je sais qu'on va aller basculer sur une de tes choix musicaux dans quelques instants, mais j'aimerais te dire, comment est née chez toi cette passion de l'objet, de la farfouille, du produit chinois que tu as? Parce que c'est plutôt au Tibet, alors après tu m'expliqueras, parce que c'est pas chinois, on dit Tibet, je sais pas, je sais plus là, je suis un peu perdu. Tu étais au Tibet?
Alors aussi, tout à fait, donc plusieurs fois, et j'étais aux marches tibétaines. C'est un endroit où les Tibétains qu'on trouve là-bas ne sont pas vraiment considérés comme des Tibétains. Et les Chinois qu'on trouve là-bas ne sont pas vraiment considérés comme des Chinois. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est le problème des marges. Des marches.
Des marches.
Des marches et des marges.
Et alors, les paysages, c'était quoi? À part le fleuve, tu avais des montagnes dessus?
Oui. Alors, en Mandchourie, ça ressemblait beaucoup en Vosges. Ça ressemblait au Jura, mais la plupart du temps, ce sont des grandes plaines. La Mandchourie, c'est la Sibérie orientale. C'est des très grandes plaines où, ci et là, on peut trouver, comme en Pologne, des aciéries, des usines sidérurgiques, parmi les plus grandes. C'est un endroit riche. Ça fait penser un peu à la... certains endroits font penser à la Ruhr, à la Pologne.
À la Pologne. Alors, est-ce que les forêts sont belles? Est-ce que tu as des beaux arbres ou est-ce que c'est des arbustes? Parce que, est-ce que c'est comme la forêt sibérienne, des bouleaux, des choses très ramassées? Ou est-ce que c'est des très belles forêts, comme en Pologne, presque primaires?
Alors, tout à fait. C'était effectivement des belles forêts, mais celles-ci sont vraiment des endroits reculés. La taïga nordique n'est pas là. La Mandchourie que j'ai connue est effectivement un endroit de très belles forêts. Où on se sent un peu comme dans les Vosges. Il y a un lien avec Strasbourg et ses forêts, c'est que quand les Japonais ont envahi la Mandchourie, ils étaient en partenariat avec les savants allemands de l'époque. Et un très grand nombre d'arbres et d'arbustes et de fleurs asiatiques que nous avons à Strasbourg dans notre jardin botanique viennent d'échanges avec ces savants japonais qui occupaient le territoire.
Incroyable. Alors on va écouter ton morceau et on reviendra après.
Las grande, la sola desierta de Anura, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Alors ce morceau que tu viens de choisir est un morceau sublime.
Merci.
Que je connaissais. Ça te rappelle quoi ?
Ben ça me rappelle mon grand-père, bien évidemment, puisque le morceau c'est Galopar, de Paco Ibanez. Et donc mon nom de famille, hein, Galopa, est très proche. Donc toute ma jeunesse, quand on le passait à la maison, j'avais l'impression qu'on parlait de nous.
T'es espagnol d'origine ?
D'origine.
D'origine. Espagnol d'origine.
Tout à fait.
Encore.
Tout à fait.
Bon,
alors, pas,
un autre conquistador.
Alors, pas vraiment, on était plutôt les conquis que les conquistadors, et on avait plutôt des Catalans. Et pendant très longtemps, justement, un peu comme dans les marges, on n'était pas vraiment des Espagnols, on était des Catalans.
Pas français, pas espagnols, ouais. Catalans.
Heureusement que le fils a épousé une Alsacienne, alors c'est devenu beaucoup plus clair en termes d'identité.
Mais galopin, c'est bien français, quand même.
Oui, mais là, c'est galopa.
Ah, galopa.
Oui.
Ah, galopa, et non galopa.
Oui, tout à fait.
Très bien. Alors, je voudrais que tu tâches un peu plus sur la Mandchourie, parce que ça fait rêver, la Mandchourie, il y a Tintin, le fameux Tintin au Tibet, la Mandchourie, parce que la conquête des Japonais, de ses traits et tout, c'est toute une histoire de notre... illustration de notre jeunesse. Est-ce que toi, tu as ressenti, à travers cet album, Tintin au Tibet, des exemples de ça, ou pas du tout ?
Alors, il y a deux choses. Il y a un premier album, c'est le Lotus Bleu.
Ouais.
Et dans le Lotus Bleu, Hergé va parler de l'incident de Munkin, donc l'incident de Cheyenne, quand les Japonais ont fait un faux attentat pour montrer que la Chine était incapable de se défendre et qu'il fallait l'envahir. C'était une invention des fascistes, comme ils ont fait pour envahir la Pologne, comme ils ont fait pour envahir l'Espagne. Une manigance atroce qui a tué des millions de personnes. Et Hergé était sensible à la cause du peuple chinois et il a évoqué cet incident dans le Lotus Bleu, c'est dans les premières pages. Et effectivement, là, l'ennemi est le japonais. Ensuite, il y a effectivement Tintin au Tibet, où là encore, Hergé ne va pas au Tibet autrement que pour sauver un Chinois, à savoir son ami Chang, son ami qu'il avait rencontré en Belgique, et qu'il a revu après, 30 ou 40 ans après, c'est une aventure incroyable. Et là, au Tibet, non, malheureusement, parce que moi, j'étais aux marges tibétaines, et alors que Hergé parle vraiment des plus hauts sommets, des endroits inaccessibles, là où vit le Yéti. Et souvent, quand on parle d'une chose, on parle souvent du paroxysme, du plus haut, du plus incroyable, du plus élevé. Et ce sont des choses qui, généralement, moi, ne m'intéressent pas tellement. Je connais la haute montagne un petit peu, je sais que c'est inhospitalier, je sais que c'est dangereux, et je préfère un peu les fonds de vallée.
C'est marrant.
Les marges, les milieux de vallée où c'est pas tout à fait ça.
Et alors, comment est arrivée cette idée incroyable de te lancer dans le commerce? Comme un peu Marco Polo, enfin, comme on peut le dire, c'est tu es allé là-bas et tu ramènes des produits et tu es venu les vendre à Strasbourg avec deux échoppes, parce que tu en as deux.
Oui, maintenant deux. Alors, ma femme vivait à Cheyenne. Et elle voulait absolument, en bonne chinoise, faire du commerce. Moi, j'étais intéressé par le professorat, j'étais intéressé à tout à fait autre chose. Et pour la calmer, j'ai eu l'idée géniale de lui dire « Oui, le commerce m'intéresse follement. Mais c'est toi qui t'en occuperas. » Si bien qu'on a acheté, et je ne voulais pas avoir des objets un peu pénibles. Et par hasard, elle avait un copain tibétain qui vendait sur les marchés des articles religieux. Et là, j'ai dit « Mon Dieu, ça c'est intéressant. Ça ne se périme pas. C'est culturel. » Et tout de suite, ça m'a attiré. J'ai dit, ça c'est incroyable, parce que ça, c'est des belles choses. C'est pas non plus des très belles choses, mais ça a du sens. C'est intéressant. En plus, ce Tibétain, il est sympathique. Il est avec sa femme, il y a quelque chose, il y a un sourire. Et j'ai dit, oui, là, d'accord, là, je veux bien. Je veux bien me battre, je veux bien essayer de tenter d'être commerçant, parce qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose de beau à découvrir. Ce sont des objets qui parlent de quelque chose, on sent qu'ils ont été façonnés par la main, on sent qu'il y a une histoire derrière.
Alors, quel a été le premier produit, le premier article qui a amené le succès et qui t'a convaincu? Donc c'était une bonne démarche. Les bracelets, les pierres, les étoffes, parce que je connais ton échoppe et je suis toujours admiratif entre toutes ces pierres, tous ces colliers, tout ce qu'on trouvait, tous ces encens aussi, parce qu'on m'a parlé de ça, la sauge, tout ce qui existe.
Alors, le premier article était des bracelets en os. Ils étaient taillés, je voyais toutes les imperfections de l'os. Je voyais aussi qu'au travers certains colorants qu'ils avaient mis, on retrouvait des couleurs typiquement tibétaines, des couleurs chamarrées. Et ça me faisait plaisir à voir. Ensuite, le commerçant tibétain nous a fait croire qu'il avait des objets taillés en os humain. Et il se trouvait que je savais que les Tibétains faisaient quelques objets rituels avec des os humains, et il s'agissait d'un mala, donc un chapelet bouddhiste qui, pour les touristes, est fait en crâne d'être humain. Et pour les gens plus sérieux, qui est fait en crâne de yak. Il sentait mauvais. On sentait encore le suif de l'animal. Quand je le touchais, j'avais les doigts un peu sales parce qu'il y avait un oxyde de cuivre, parce que chaque grain était constellé de petites pierres, de turquoise et de petits corails. En fait, il s'agissait de morceaux de verre. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir du vrai. Et parfois, ils avaient des petits anneaux en cuivre. Et ce cuivre, il était un peu érodé. Et il a fait effet de l'oxyde de cuivre. Il y a du verre de gris. On touchait du verre de gris. Et ça, c'était un bel objet.
Ça avait du succès?
Non. Non, mais ça faisait peur aux gens. Les gens, quand ils reniflaient, ça sentait mauvais. Donc, c'était formidable.
Question. As-tu encore dans ta boutique?
Oui, j'en ai un. J'en ai encore un. Et je suis très content. Plus tard, j'ai eu quelques photos et j'ai vu quelques musées où il y avait vraiment des vrais en os de crâne humain. Et j'ai rencontré un de mes grands, M. Navet, un chercheur, M. Doulan, en chamanisme, qui en avait touché un entre les mains, qui était fait avec 108 grains. Et chaque grain était prélevé dans une fille de 18 ans, morte à 18 ans.
Incroyable. Alors on y reviendra, on va écouter ton deuxième morceau. Voilà. Et je reviendrai sur cette aventure. C'est comme un chapelet.
Oui, c'est vrai, tous ces graines.
Tous ces graines. On reviendra là-dessus.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevrons, mes agnelets.
Alors, Eric, prie, que je m'excuse, je suis obligé de mettre un peu un terme, parce que le temps, au fil de l'eau, passe tellement vite, tu t'imagines, ça s'égrène à une vitesse terrible. Alors ce deuxième choix, c'est dû à quoi, ce deuxième choix musical?
Au plaisir de vous rencontrer.
Et il est dédié pour moi?
Ah bah oui.
Alors là, je suis... Ça aurait pas pu faire plus. Tu peux revenir, s'il te plaît, sur ce chapelet. J'ose dire ce chapelet. Tu as appelé ça comment?
Amala. Akshamala.
Amat. Avec des os humains. Il n'y a pas une notion, je dirais, plus que chamanique, de la relation intemporelle entre nous sommes rien et nous existons quand même encore à travers nos os.
Oui, mais justement, il faut pour l'idée bouddhiste, justement, il faut, je pense, hein, qu'il faut se défaire de ça. C'est qu'à un moment donné, nos os, justement, ce n'est pas nous. C'est qu'un véhicule. C'est quelque chose qui nous porte. Mais notre vrai trésor, c'est à l'intérieur de nos corps, c'est notre âme. Nos os, notre aspect physique, ce n'est pas nous. Il faut se débarrasser de ça. Ce sont des scories qui vont. Notre esprit est beaucoup plus élevé, beaucoup plus intéressant. Donc c'est un peu comme dans le cas d'une rivière, notre esprit est comme la rivière qui est libre, alors que nos os sont en fait des barrages.
Absolument, qui retiennent et qui nous empêchent. C'est très joli comme définition, je le reprendrai à mon titre, si tu me permets, Eric, sans droit d'auteur. Tu...
Ah bah, c'est pas de moi.
Hein. Alors dans cette boutique que tu as créée en quelle année, parce qu'on va parler...
Ouh, mais ça va être de... Alors c'est 2004...
Un succès permanent?
Non, alors moi je cours pas après le succès.
Si, parce qu'il y a toujours du monde.
Oui.
En tout cas, c'est un lieu de rencontre.
Oui, oui, tout ça. Alors ça c'est intéressant, oui, ça c'est intéressant. Ouais. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle le succès.
Alors, je parle pas financier, je parle du succès humain.
Oui, alors là, oui, effectivement. Mais il y a tellement aussi d'occasions qui ont été ratées. Il y a tellement de choses plus intéressantes qu'on aurait pu faire. J'aurais pu mieux m'organiser, etc. On peut parler de succès, mais c'est toujours relatif, le succès.
Alors, comment tu t'approvisionnes? Tu vas faire les achats là-bas?
Alors non. Effectivement, on avait rencontré ce couple de Tibétains et on se fournit. Et alors, ils nous envoyaient des objets et donc on leur faisait confiance. Dans un deuxième temps, j'ai eu la chance de rencontrer une Sherpini, donc une Népalaise, mais de l'ethnie Sherpa, qui, elle, avait sa maman à Katmandou. Et à Katmandou, on était beaucoup plus proche du Népal que l'étaient les pauvres Tibétains qui n'avaient pas tout à fait les mêmes objets. Et c'est là qu'on a pu avoir des objets plus facilement, parfois de meilleure qualité, plus travaillés. Et c'est ça qui a vraiment fait en sorte que le Tibet bleu avait des vrais objets. Lorsque je m'approvisionne en Chine, le plastique avait déjà fait son apparition. Et certains Tibétains, le plastique pour eux c'était la modernité. C'était bien, c'était le formica. Et tandis que les artisans népalais, eux, produisaient pour certains touristes qui, eux, ne voulaient pas de plastique, ils voulaient du vrai.
Alors, moi qui ai découvert ta boutique il y a à peu près, entre le Covid et là, par un ami commun que je n'ose nommer, j'en ai deux du reste, deux, Pascal, et après Jean-Marc, on ne va pas oublier Jean-Marc, qui a été une grande révélation pour moi. Moi, j'adore fouiner dans ta boutique. Parce que c'est un bazar. On peut appeler ça comme ça, un bazar?
Oui.
Un vrai bazar, où il y a toujours de la gentillesse, il y a toujours de l'information, voilà. Il y a des ondes, parce que je les perçois, et ce que je préfère aussi, c'est d'aller au fond, là où il y a les paquets, les tambours tibétains. Alors ces tambours tibétains, comment tu fais pour les acquérir? Parce que c'est quand même... quelque chose de spécifique, le tambour tibétain.
Alors, il y a deux choses. Il y a donc les bols tibétains, mais j'avais aussi des tambours tibétains qui étaient assez intéressants. Dans la mesure où le manche est un pourbout, donc un poignard ça, qui permet de détruire les trois démons de l'ego, l'envie, la haine, l'ignorance. Et ce qui est amusant, c'est qu'encore une fois, cet instrument de musique, ce tambour est un tambour chamanique, mais dont le manche est typiquement taillé en forme d'objet de rituel de bouddhisme tibétain. Donc le bouddhisme tibétain a très bien pu phagocyter le chamanisme, et par la suite, grâce à une professeure d'ethnologie, Mme Galé Lacaze, je me suis rendu compte que dans le terrain, le bouddhisme tibétain est en train de conquérir la Mongolie et de détruire quelque part les derniers chamans de Mongolie.
Alors, note un peu triste, mais tu es là pour sauver encore les quelques chamans, cette culture, non ? Au fil de l'eau, on passe très vite. Alors, Eric, je te remercie énormément de tous ces éclairages. On a voyagé au Tibet, sur le fleuve Amour, sur les marches du Tibet. Merci, Eric.
Merci, Marc-Paul. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Au plaisir.
Au plaisir.
Au fil de l'eau, reviens sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant. Mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique. Et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez.